Europe 1, midi 14h, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 14h et nous avons une petite heure pour mettre en avant vos projets, vos initiatives. Chacun à son échelle a la capacité d'améliorer le monde après cette crise inédite et on le voit chaque jour avec vos témoignages, avec vos idées, avec vos créations et avec votre audace. On le voit dans La France Bouge. À mes côtés pour en parler, Dora Nana de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Dora.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous et à toutes.
Et notre coach de la semaine, Marie-Éloi. Bonjour Marie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes la présidente du réseau Bouge ta boîte et de Femmes des Territoires. Alors on commence par un projet. Ce projet, il s'appelle Civility. C-I-V-I-L-I-T-Y. Bonjour Pierre Blondron.
Bonjour. Civility, c'est quoi ?
Mais attendez.
Ah pardon.
Je sais que vous avez très très envie de pouvoir exposer votre projet, mais d'abord on va se dire bonjour, on va s'installer confortablement dans le canapé et vous allez nous expliquer. Donc Civility, vous êtes le premier, vous avez une formation d'ingénieur, hein, Pierre, et vous, c'est typiquement un projet né de la crise. C'est un masque, mais pas n'importe lequel, un masque qui permet de voir les expressions, les sourires, un masque réutilisable et transparent, 100% français. Et donc là, je vais vous laisser tout nous expliquer. C'est parti, vous avez 1 minute 30.
Super.
Et bien là, vous pouvez y aller pour le coup. Hein.
Ok. Civility, c'est quoi ? Comme j'ai voulu commencer tout à l'heure, c'est un masque transparent que nous avons créé pendant le confinement pour se protéger du Covid, des allergènes ou encore des pollutions. L'urgence de cette crise sanitaire nous a aidés à nous surpasser et à le matérialiser dans un temps record. On a vraiment mis notre vie sur pause. Comment on s'y est pris ? On a fait appel à 15 designers du monde entier qui nous ont aidés à concevoir ce masque parce que eux-mêmes, bloqués dans le monde parmi ces 4 milliards de personnes, on leur a dit comment on peut rendre meilleur ce monde et retrouver des interactions. Donc le côté de transparence et sécuritaire de ce masque nous paraissait vraiment une priorité. Après, on a travaillé avec des ingénieurs en France et on est même allé jusqu'à louer un immeuble à Angoulême. On a travaillé 24 heures sur 24 avec notre équipe pour le sortir le plus rapidement possible. Ce projet sera industrialisé à 100% en France. Pourquoi ? Parce que nos emplois aujourd'hui sont menacés et on veut vraiment relocaliser nos business et revoir notre façon de penser. On l'a pensé pour protéger nos enfants quand ils vont prendre les transports, protéger nos aînés, nos parents, aider également tous les métiers de service qui sont en lien dans le commerce, dans la restauration, pour pouvoir vraiment redonner ce côté interaction et sourire.
Et ben voilà, pour c'était très bien. D'accord. Alors là, ça y est, la minute 30 est terminée. Merci pour votre pitch. Je me tourne vers Marie-Éloi. C'est bien, hein, non, Civility ? Il est bien, hein, Pierre ?
Ça coche toutes les cases, hein, parce que c'est lavable très facilement, c'est high-tech, c'est éco-responsable, c'est made in France, le prix est correct. Ça facilite aussi le lien, ça remet du lien, notamment pour les personnes malentendantes, parce que déjà, on ne se serre plus la main, on ne se sourit plus, il reste plus grand-chose.
Donc, on peut voir la forme de la bouche et,
là,
et donc le mouvement.
Donc ça change tout. Donc je suis confiante pour votre campagne de crowdfunding qui est en train d'être lancée. Par contre, j'ai deux remarques. Vous faites des masques pour les enfants, vous l'avez dit. Vous en avez fait un bleu, un rose. Si on pouvait éviter de tomber dans les stéréotypes bleu
oui,
pour les garçons, cliché. Rose pour les filles, mettez vite d'autres couleurs dans vos masques pour enfants. Et puis, je me posais la question du plastique sur la peau parce que c'est un masque, je crois, qui peut rester 12 heures au contact de notre visage. Quel est le ressenti ? Est-ce que ça fonctionne bien ?
Oui, ça fonctionne bien. On a choisi des plastiques qui sont aptes au contact alimentaire et contact médical, donc peau. Et dessus, c'est un joint à lèvres en fait qui vient épouser toutes les formes. Et juste avant l'envoi, on va fournir avec ce masque 3 joints pour s'adapter à toutes les tailles de visage, que ça soit de l'adulte à l'enfant.
Très bien.
Alors, la phase de commercialisation grand public se lance via une plateforme, hein, via Indiegogo, c'est ça ?
C'est ça, c'est une plateforme de vente participative où on espère que le maximum de personnes vont se retrouver dans la gêne occasionnée des masques qu'on porte tous les jours dans ce projet. Et j'espère être relayé après en grande distribution et dans tous les endroits où nos citoyens prennent les transports, que ce soit les aéroports, les métros, les gares, dans tous les endroits en fait où le port du masque est obligatoire.
Dora, vous avez une gamme pour les allergiques ?
Oui, moi-même allergique au, au pollen. Du coup, le filtre qu'on a choisi, il protège également du pollen, de ses allergènes. On l'a aussi pensé pour une future grippe, par exemple, un mois de décembre, dans un métro parisien. Et on a vraiment voulu que ça soit un peu un couteau suisse, un espèce de
rousse-cour
qu'on a dans la voiture, qui peut perdurer dans le temps et qu'on l'ait chez nous, en tout cas.
Combien coûtent tous ces masques ? Parce que je crois que vous avez plusieurs tarifs, ça dépend des modèles, ça dépend de combien on en achète.
C'est ça, le masque est à 35 €, on offre un mois d'utilisation de filtre, et après sur le deuxième mois, donc on est à 10 € par mois. Donc dans tous les cas, on est moins cher qu'un masque jetable, où on doit théoriquement le changer tous les 4 heures, ou des masques lavables avec une durée de vie entre 10 et 20 lavables.
Marie ?
Et 20 lavages, pardon.
C'est un très beau projet qui a de la vie.
Qui a sa place. Hein,
qui a sa place.
Fin de la campagne, 26 juillet 2020. Vous êtes sûr de pouvoir, là je crois que vous êtes quasiment sûr de pouvoir vous lancer dans la production un peu plus globale.
Oui, on reçoit des messages du monde entier par rapport à ce projet. On n'est pas les premiers à avoir pensé, mais en tout cas on est les premiers à avoir sorti un prototype dans le monde, je pense. Et le but, c'est que ce projet, on nous parle souvent de propriété intellectuelle. Ce projet, il appartient au monde et pas à moi. On l'a fait pour aider les autres et essayer de sauver le plus de vies le plus rapidement possible, en tout cas, et que chacun puisse reprendre sa place dans la société.
Vous l'avez fait donc pour ces bonnes raisons, mais aussi à l'origine, hein, parce que c'est toujours agréable de connaître l'origine du projet. C'est aussi un masque pour protéger votre fille de 3 ans.
Voilà,
c'est
on était peut-être un peu parano, c'est ça,
mais pour protéger ma fille de 3 ans. Non, on n'est jamais parano dans la protection.
Mais surtout ma grand-mère. C'était surtout pour protéger mes grands-parents. Je sais qu'ils n'auraient pas longtemps et on se voyait mal aller chez eux et sans avoir de matériel de protection où on soit sûr à 100% de l'efficacité.
Je crois qu'on est tous convaincus dans le studio, hein, Marie, Dora, Céline. Hein
ouais. Ils sont jolis en plus.
En plus, ils sont très jolis. Moi, merci.
Et vous,
oui.
Vous pouvez les personnaliser également. On pourrait en faire un à l'effigie de votre radio, justement pour les entreprises qui veulent les customiser.
Ah bah,
donc, j'espère un jour pouvoir équiper votre radio, Air France, le Club Med, en tout cas retrouver une conviviabilité.
Ça, c'est un excellent débouché aussi, hein, les masques logotypés pour les entreprises. Ouais. Vraiment un très bon débouché.
De toute façon, il y a un marché parce que ça ne va pas s'arrêter malheureusement tout ça dans quelques semaines. Donc, comme ça va perdurer, vous avez raison aussi de vous connecter aussi avec les entreprises. Ça s'appelle Civility, le premier masque de protection transparent, éco-responsable, made in France. Merci à vous, Pierre Blondon.
Europe 1.
C'est l'heure de la solution avec Dora Nana. Dora, une solution, un petit teasing de la solution, allez.
Une petite solution qui motive vos ados et ça s'appelle Alvéus.
Allez, on vous retrouve dans un instant.
Il est 13h15. Il est 13h18 et c'est l'heure dans la France bouge de découvrir la solution du jour avec Dora Nana et Elisabeth.
Eh oui, Dora, aujourd'hui vous allez nous parler de cours de soutien scolaire. Il y en aura sûrement besoin à la fin de l'été, mais pas n'importe lequel. Et c'est votre solution, Dora.
Ça s'appelle Alvéus. Et après la période que l'on vient de vivre, là, tous en tant que parents, on est inquiets à la veille des vacances scolaires, avec les lacunes accumulées, la motivation en berne de nos enfants, le fait qu'ils se réveillent tard. Alvéus, ce sont des cours de soutien scolaire faits par des jeunes en plus, et pour les jeunes, les 12-18 ans, les collégiens, les lycéens, et dans des espaces pensés et conçus pour eux. Bonjour Alexis Savin.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le co-gérant donc d'Alvéus, notre solution. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1.
Merci de me recevoir.
Je le disais, vos cours, ils sont réalisés par des jeunes étudiants finalement à peine plus vieux que ceux qu'ils encadrent. Ça apporte quoi de plus, déjà ?
Cette proximité d'âge fait que les élèves et leurs tuteurs, du coup, parlent le même langage. Les liens se créent plus facilement, les élèves arrivent plus facilement à exprimer leurs difficultés, il y a moins de gêne.
Comme un grand frère ou une grande sœur, comme un animateur de colo.
Exactement. Il
n'y
a pas cet écart qui peut un peu déstabiliser, refroidir.
Donc ça, c'est vraiment un plus. Autre particularité, vous accueillez les enfants dans des lieux assez spécifiques. C'est-à-dire vraiment, l'idée, c'est de leur recréer un cocooning, qu'ils s'y sentent bien, qu'ils aient envie d'y revenir. Ils ressemblent à quoi, racontez-nous ?
En fait, on s'inspire un peu des espaces de coworking, de ces open space de start-up. L'idée, c'est de proposer un lieu qui soit ni l'école, ni la maison. C'est leur endroit. Et quand ils viennent, l'objectif, c'est qu'ils se sentent à l'aise et prêts à travailler.
Mais alors, c'est quoi ? Ils ressemblent à quoi ? Il y a un baby-foot ?
C'est des espaces... C'est des espaces lumineux avec des grandes tables, c'est pas des pupitres individuels. C'est il y a des quelques cloisons, mais tout est très très amovible. On peut facilement circuler. Voilà.
C'est pas le cadre scolaire habituel,
non,
ni le cadre de la maison.
C'est
on
ça.
Oublie qu'on est là pour apprendre, mais il faut quand même apprendre. Alors, qu'est-ce que vous proposez de plus? C'est du coaching particulier, petit groupe? J'ai vu qu'il y avait des mélanges aussi de niveaux. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'intrigue.
En fait, qu'est-ce qui se passe dans les ruches? Les élèves qui sont membres d'Alvéus peuvent venir y travailler autant qu'ils veulent, la semaine, le week-end, en accès libre. Ensuite, ils ont accès à des séances de soutien thématisées. Par la méthode du tutorat. Donc ça, c'est vraiment notre particularité. Et enfin, ils peuvent participer, s'ils veulent, à des ateliers qui parlent de méthodes, d'orientation. On a aussi un sur l'initiation au code, par exemple. Voilà.
C'est une forme de deuxième maison, en fait. Finalement, ça devient un peu la bibliothèque, le lieu où on se retrouve après les cours.
C'est ça. D'accord. On veut que ce soit une sorte de club où ils se sentent bien et où travailler, ce ne soit pas problématique, que ce soit presque agréable.
Et vous êtes vigilant sur la qualité de l'enseignement, comment vous faites?
Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, les tuteurs, donc les étudiants qui accompagnent nos élèves, sont sélectionnés par nos soins avec beaucoup de vigilance. On s'assure qu'ils aient naturellement les compétences sur le fond. Mais en fait, pour nous, ce qui est très important aussi, c'est leur capacité à inspirer les élèves, à les motiver, donc à avoir ce charisme qui fait que les élèves, à leur contact, vont avoir envie de se dépasser. Voilà, c'est pas juste des têtes d'ampoule, quoi.
Ouais, vous disiez, en plus, vous prévoyez aussi des petits programmes annexes, c'est-à-dire en plus des cours, ils peuvent venir pour suivre des espèces de tutorats sur des thématiques, et ça, c'est gratuit, en plus.
C'est les ateliers méthodo. Effectivement, en fait, les heures de soutien scolaire, ça, c'est payant, et puis ensuite ces ateliers méthodo, où ces conférences d'orientation sont gratuites.
Donc ils peuvent rester dans l'espace et à la fin des cours de soutien, commencer un atelier.
Oui, à d'autres moments, à d'autres jours, ils peuvent venir. Et ça, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas besoin d'être forcément membre d'Alvéus pour y accéder. Il suffit de s'inscrire sur notre site et voilà.
Et il y a quoi comme atelier? Parce que j'ai vu des choses assez sur le stress, la gestion du stress, des choses assez intéressantes pour des collégiens.
Ça dépend des tuteurs, enfin des profs qu'on a qui sont là pour créer ces ateliers et les animer, mais généralement ça va tourner effectivement autour des matières scolaires, ça va être comment lire un énoncé en maths, comment faire une bonne dissertation, et puis sinon ça va être comment effectivement je peux apprendre à canaliser mon stress avant un examen pour arriver détendu, ça va être comment je peux chercher des infos sur internet ou dans les salons pour m'orienter, etc.
Marie-Élvoie.
Moi, j'aime beaucoup. Il y a le coworking pour les adultes et là, c'est le co-learning
les
ados.
C'est vachement original.
Votre site est très bien fait, ça donne envie. Il faudrait peut-être juste mettre le prix un peu plus en avant qu'on sache.
Ah oui, alors, au fait, c'est combien?
Ça dépend le nombre d'heures de soutien que vous allez suivre. Mais par exemple, si vous souscrivez à une offre d'une heure de soutien par semaine, ça coûte 100 € par mois. Et avec ça, vous avez donc 7 heures de soutien par semaine et aussi l'accès illimité.
7 heures ou une heure?
Une heure.
Une heure pour 100 € par mois?
Par semaine.
25 € par
mois. Ouais, grosso modo.
Semaine, en fait.
Mais en fait, nous, on ne parle pas trop de tarifs horaires parce que, comme je disais, dans ce forfait mensuel, il y a l'accès illimité à l'espace. Donc en fait, vous avez une heure de soutien avec
et
un prof dédié.
Et après, ils peuvent rester, échanger avec leurs camarades.
Voilà. Il y a quand même, s'ils sont bloqués, ils peuvent venir un autre jour, tous les jours de la semaine. Là, par exemple, si le mois de juin s'était déroulé normalement, on a normalement nos élèves, par exemple, de première terminale qui viennent tous les jours. Et quand ils viennent librement, en plus de leurs heures de soutien, ils ne sont pas délaissés. Quoi. S'ils coincent, il y a quand même un tuteur qui est là pour les accompagner.
C'est entre la bibliothèque et le café. Ils peuvent aussi se restaurer.
Il y a aussi une cafétéria, parce que c'est vrai, quand ils sortent de classe, ils ont toujours une petite faim quand même.
Vous êtes situé où? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce qu'on peut aller dans vos espaces de co-learning? On peut les appeler comme ça.
Vous les appelez comme ça. Elles sont situées, nos ruches, à Paris actuellement. Et puis peut-être qu'un jour il y en aura dans d'autres villes de France.
Vous cherchez à vous développer en ce moment ou pour l'instant?
Oui, en fait on avance un peu à notre rythme, mais l'idée effectivement c'est un peu de répondre à la demande. Quand on a des parents qui nous disent c'est dommage que vous ne soyez pas dans tel endroit, on essaye de se dire pourquoi pas y aller, quoi.
Eh ben en tout cas, ça s'appelle, nous, ça nous a convaincus, ça donne envie.
Ça
s'appelle Alvéus. En tant que prof peut-être. Ça s'appelle Alvéus. Merci à vous, Alexis Sabin. C'était la solution du jour.
Et il est 13h24.
Europe 1.
Les restaurateurs ont besoin de clients et pour cela, il faut que les conditions de sécurité, d'hygiène soient réunies. Eh bien, figurez-vous qu'on a trouvé des solutions. Restez avec nous, c'est le dossier du jour. À tout de suite. La France bouge continue avec un dossier du jour consacré aux innovations pour respecter les gestes barrières dans le domaine de la restauration.
Et oui, Elisabeth. Parce que aller au restaurant, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience là autour de la table.
Pas encore.
C'est pas évident. Hein. C'est plus du tout comme avant. Port du masque obligatoire pour le personnel. Quand on se déplace à l'intérieur du restaurant, il faut aussi porter le masque. Les tables sont limitées à une dizaine de personnes, distance d'au moins un mètre entre chaque table. Alors face à ces règles sanitaires très strictes, un entrepreneur a eu l'idée de proposer des serres pour chaque table. Bonjour Philippe Raoult.
Oui, bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes le dirigeant de l'atelier des serres. Alors vous avez créé votre entreprise en 2014, donc ça ne date pas du confinement. Vous êtes situé à Saint-Léger, sous Cholet, dans le Maine-et-Loire. Et comme son nom l'indique, vous proposez des serres pour pouvoir déjeuner ou dîner à l'extérieur sans avoir d'abord le contrainte des intempéries. Mais là, ça tombe bien, on peut, dans le contexte du Covid, ça permet aussi de respecter la distanciation sociale.
C'est bien ça ? Oui, tout à fait, c'est ça. Tout à fait, oui, c'est ça.
Alors, elles sont comment, ces serres ? Racontez-nous.
Elles sont comment ? Elles sont toutes simples.
Elles sont en quoi ?
Elles sont en aluminium et le vitrage est en verre. Parce que c'était un choix, en fait, surtout parce que c'est ce qu'on fabrique le plus, de toute façon.
Donc, c'est votre cœur de métier, hein, puisque vous en fabriquez. Mais là, avec la crise du Covid, vous vous êtes dit, il y a peut-être quelque chose à faire ?
Oui, il y avait quelque chose à faire. En fait, l'idée, elle est venue en fait sur un réseau Facebook, pour pas citer, quelqu'un à Amsterdam qui utilisait déjà en fait des serres en fait pour manger en fait à l'intérieur. C'est un restaurant en fait sur Amsterdam. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et on a appelé le restaurant à Amsterdam et on a eu l'autorisation d'utiliser en fait l'image. Et nous, on a commencé à communiquer en fait sur ces serres-là. Et le métier, on le connaît. Donc moi, j'ai juste adapté en fait. Par rapport à la restauration, c'est-à-dire qu'on a décliné en fait trois petites serres, parce que j'appelle ça des petites serres, deux couverts, quatre couverts, six couverts, pour respecter en fait les gestes barrières et la distanciation sociale. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est parti en fait sur cette idée-là. On s'est dit pourquoi pas.
Mais là, sous 34 degrés, on peut déjeuner sous la serre. On respire ? Non mais
alors,
vraiment, je.
Non, non, mais c'est une très bonne question. Alors, ce qui se passe, c'est que dans une serre, en fait, on a différents équipements, en fait, qui permettent de minimiser, en fait, les températures. Alors, je vous cache pas qu'il peut faire un petit peu chaud, mais bon, il y a une porte, il y a des aérations en toiture sur les côtés. On peut mettre une multitude de choses. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des produits qui sont sur mesure. Voilà. Et c'est ce qui permet, en fait, d'avoir des choses. On peut vivre à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai pas découvert aujourd'hui le monde de la restauration comme ça. C'est-à-dire que nous, déjà, les serres, la moitié de notre production sert pour l'habitat. Donc, les gens s'en servent déjà comme serre d'agrément. Donc, ils mettent une petite table, ils mettent, tout en cultivant à côté.
Parce que l'objectif premier, c'est de pouvoir être à l'extérieur et ne pas être dépendant de la météo.
Tout à fait.
Ça, c'est l'idée première.
L'idée première, oui, c'est d'avoir, on appelle ça un couvert. C'est-à-dire, c'est de ne pas avoir...
On remplace le parasol, mais en plus couvrant.
Tout à fait. La seule différence, c'est que vous n'avez pas d'air en fait qui rentre aussi, sauf si vous ouvrez. Voilà, vous pouvez gérer en fait le flux d'air à l'intérieur.
Marie-Éloi, notre coach.
Moi, j'avais vu comme vous sur les réseaux sociaux ces images très romantiques des mini-serres à Amsterdam. J'avais trouvé ça très chouette, très intimiste.
Ouais, tout à fait.
Et en tout cas, ce que vous faites, passer de la serre traditionnelle à la serre pour les restaurateurs, c'est vraiment un exemple de pivot qui est très intelligent de votre activité. Surtout que vous dites que l'hiver, du coup, elle peut servir au potager du restaurant.
Tout à fait.
Donc, ça fait double emploi. Maintenant, la seule chose à développer, c'est de vous faire connaître. Donc, l'émission, j'imagine qu'elle va servir à ça. Mais vraiment, en fait, faire connaître sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous y êtes.
Vous avez une communauté déjà ?
Je n'ai pas vu.
Oui, non, on n'a pas de communauté, mais on communique déjà en fait sur Instagram, sur Facebook, des choses comme ça. Après, je travaille avec une agence en fait relations presse pour pouvoir communiquer au maximum. Mais ça, la communication, c'est ce qui est le plus dur aujourd'hui dans une société, c'est de faire découvrir ce qu'on fait et notre activité. Donc après, c'est vrai qu'il faut que les gens s'imaginent ce qu'on peut en faire, et surtout que moi, l'idée pour les restaurateurs, c'est d'avoir quelque chose de durable, pérenne. C'est-à-dire que c'est pas juste ponctuel.
Alors,
c'est vraiment. Pardon.
Non, je vous en prie. C'est pour quel type de restaurant aujourd'hui ?
Alors, l'avantage que j'ai, moi, c'est que je peux proposer de tout type de restaurant. C'est-à-dire, souvent, avec une terrasse, qui est bien évidemment, parce qu'il faut mettre les serres à l'extérieur. Gros intérêt, en fait, de ces serres-là, c'est qu'elles se tiennent toutes seules. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de les fixer au sol. Alors, il faudrait, mais ce que je dis, on appelle ça autoportant. Donc c'est-à-dire que si le restaurateur demain veut réimaginer en fait par exemple sa terrasse, il peut bouger les serres. Alors il faut enlever en fait le vitrage bien sûr, mais autrement vous pouvez les mettre où vous voulez.
Et donc c'est modulable.
Mais bien sûr, c'est ça l'intérêt en fait, c'est que c'est vraiment très très polyvalent.
C'est du kit. C'est en kit.
Oui, c'est en kit, c'est-à-dire que c'est livré en fait dans des grandes caisses avec du verre à côté, et le restaurateur peut le monter où nous pouvons monter, parce que ça fait partie de notre activité, la pause. Mais c'est vrai que si on veut rester raisonnable en termes de tarifs, bah, vaut mieux en fait que le restaurateur puisse la monter par lui-même.
Vous parlez des restaurateurs, Dora, c'est important de... On va s'arrêter un petit peu là-dessus, parce que l'heure est grave hein, quand même pour les restaurateurs. Il faut les aider.
Il faut les aider et on imagine activité quasi zéro pendant près de 3 mois.
Ah, c'est dingue.
Ouais, 230 000 professionnels du secteur qui sont inquiets pour leur avenir. Leurs représentants estiment à 30% la proportion de faillites d'ici la fin de l'année due au manque d'activité. Parce qu'on le voit bien, une reprise en douceur, les gens qui font attention à leurs dépenses dans un avenir économique incertain. S'ajoute à ça le manque de rentabilité, hein, parce que malgré tout, le protocole sanitaire les contraint à être à la moitié de leur capacité d'accueil environ.
Ouais, donc il faut vraiment faire quelque chose. Dernière question, Philippe Raoult, combien coûtent ces serres que vous proposez aux restaurateurs? Parce que c'est aussi un investissement, c'est pas évident pour eux en ce moment, mais il faut qu'ils investissent combien pour les avoir?
Nous, aujourd'hui, on a fixé des prix, en fait, pour eux. Ça démarre, en fait, à 1 600 € hors taxe, la serre, jusqu'à 2 000 € hors taxe. J'ai limité exprès, en fait,
Les tarifs. Pour pas que ce soit trop élevé. Et là, vous en êtes où? Vous en avez vendu beaucoup?
Alors, en fait, on a des projets, en fait, sur des restaurants. On n'a pas encore abouti parce que je pense que le temps nous est pas
trop. Le temps de vous connaître et de se dire, tiens, on pourrait mettre ça dans le restaurant, de rassembler les fonds. Tout ça prend du temps.
Mais j'ai eu 2 initiatives, même 3, en fait, sur le Choletais. J'ai eu un bar, en fait, qui a installé sur une terrasse. On a mis des parois et des toiles, en fait, en toiture pour pouvoir, en fait, pouvoir être en dessous et pouvoir l'exploiter, en fait, plus longtemps. Mmh. Un primeur aussi pour faire attendre ces gens, en fait, à l'extérieur, en fait, du magasin.
Ah, c'est une bonne idée.
Une casse aussi, un garage automobile. Il n'avait pas de place, il avait un préfabriqué. Il m'a dit, moi, je veux accoler une serre, en fait. Et donc, il a acheté. Donc, ça, c'est mes 3
comme
projets
quoi,
très
pas seulement pour les restaurateurs, c'est aussi, ça peut donner des idées à d'autres commerces, parce qu'effectivement, le temps des files d'attente qui sont plus nombreuses en ce moment, ça peut être aussi une solution, parce que le mauvais temps, ça peut aussi nous donner moins envie d'attendre à l'extérieur du magasin. Donc tout ça, ce sont d'excellentes initiatives. Merci à vous, Philippe Raoult. Donc vous êtes le dirigeant de l'atelier des serres. Alors dans ces innovations et dans ces idées hein, pour pouvoir aider les restaurateurs, il y a aussi les hôtels. Un hôtel qui s'est transformé, qui a transformé chaque chambre en restaurant privé. Hein. C'est aussi une façon de faire revenir les clients et de les rassurer. Et c'est ce que vous faites avec votre hôtel-restaurant. Mathieu Dehé, bonjour.
Oui, bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Donc vous êtes le propriétaire de l'hôtel Jean de Beauce. Hein, c'est un hôtel 4 étoiles. Et vous avez repris ce restaurant il y a 12 ans. Vous avez laissé votre hôtel ouvert, mais très rapidement, vous avez réfléchi à vous adapter parce que vous avez vu que les contraintes sanitaires allaient s'imposer et de manière un petit peu durable.
Oui, absolument. Dans le contexte particulier que nous connaissons, je me suis demandé tout d'abord comment rentabiliser les chambres d'hôtel non occupées. Deuxièmement, que faire de nos cuisines qui étaient à l'arrêt et de nos équipes de restauration disponibles. Et troisièmement, comment respecter la contrainte incontournable du respect des gestes barrières et de la sécurité sanitaire.
Donc vous avez, face à toutes ces contraintes, vous avez mis au point, on peut le dire, un nouveau concept.
Oui, nous avons mis une formule en place, une formule innovante et unique qui nous permettait de réinventer le métier de l'hôtellerie-restauration.
Alors c'est quoi vous l'avez réinventé comment? Je crois que vous avez pris vos chambres, c'est ça? Et vous les avez aménagées?
On a créé, tout d'abord, on a commencé par créer le site internet.
Donc le site c'est tabledhotel.fr, c'est ça?
Oui, c'est ça, tabledhotel.fr, table d'hôtel sans accent, sans apostrophe et au singulier. Sur ce site, le client réserve un déjeuner ou un dîner privé qui se déroule dans une chambre d'hôtel dans laquelle le lit a laissé place à une table. De ce fait, le lit devient une option dans le cas où le client voudrait prolonger.
C'est l'envers de l'hôtel, quoi.
C'est l'envers de l'hôtel.
C'est génial.
C'est exactement ça. Vous avez tout compris.
Marie-Éloi, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je suis toujours épatée par l'imagination des entrepreneurs. C'est vraiment extra. C'est, en fait, c'est une sorte de resto privatif
Dans
sa chambre d'hôtel. Votre site est vraiment canon. En plus, vous proposez des produits locaux, si possible bio, etc. Je me demandais, quid de la suite comment vous allez faire pour la suite? Est-ce que vous allez fédérer d'autres hôtels, restaurants comme vous, même si ça prend du temps? Comment vous imaginez l'avenir de cette solution?
Notre but à long terme, ce serait de développer une plateforme qui recense des restaurants de grande renommée et qui, bien sûr, propose aussi, qui font aussi hôtels.
Hein, donc vous allez devenir consultant pour les restaurants, les hôtels. Vous êtes en train de changer de métier.
Oui,
c'est un peu ça, non? Mais pourquoi pas
une plateforme en ligne? Comme toutes les agences en ligne bien connues que je ne citerai pas, sur un marché de niche.
Sur un marché
Je suis en lien déjà avec un webmaster qui a créé Abracadaroom.
Et donc vous êtes en train de
le business model.
Vous, qu'on a d'ailleurs reçu à Europe 1, Abracadaroom. Restez avec nous, Mathieu Dédé. On va vous reprendre dans un instant. Il est 13h38.
Europe 1.
On aide les restaurants aujourd'hui qui sont à l'arrêt, qui ont été à l'arrêt pendant 2 mois et demi, et on découvre toutes ces innovations, toutes ces créations, toutes ces innovations dans la France Bouge. À tout de suite.
Respecter les gestes barrières quand on va au restaurant, on en parle cet après-midi dans La France Bouge avec les innovations de nos invités, Elisabeth.
Et oui, on le découvre, il y en a énormément. Après les serres, là, nous sommes toujours en ligne avec vous, Mathieu Dédé. Vous êtes le propriétaire de l'hôtel Jean de Beauce, c'est un hôtel 4 étoiles qui est situé donc près de Chartres. Et donc vous, le concept, c'est que le client réserve sur le site tabledhotel.fr et il peut déjeuner ou dîner dans une chambre dans laquelle le lit a laissé la place à une table. C'est l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Dora.
C'est le lit qui devient option.
C'est le lit qui devient option. Est-ce que c'est le même prix pour réserver une chambre? Quels sont les tarifs?
Alors, le prix de la chambre ne change pas si on réserve l'option chambre. En revanche, le repas est un repas exceptionnel. C'est un menu dégustation en 5 plats. Qui permet de découvrir tous les talents du chef. Nous avons la chance d'avoir le chef Maurice Alexis, qui a œuvré dans les cuisines de l'Élysée pendant 24 ans. Et ça fait aussi partie du concept d'avoir un chef exceptionnel.
Marie ?
Et on se posait la question également des odeurs. Comment vous faites ensuite, si on prend l'option lit, donc repas plus lit, et qu'on souhaite dormir par la suite, comment ça se passe, la gestion des odeurs ? Pour pas dormir dans une atmosphère confinée qui sent la nourriture, même si elle est 4 étoiles.
Même si elle est délicieuse.
Oui.
Alors, les personnes qui choisissent de passer la nuit sont dans des junior suites. Donc, ce sont de très grandes chambres. Et après, évidemment, nous ventilons simplement par la
fenêtre. Oui, vous aérez. Combien de repas servis depuis vous avez démarré le 29 mai, ce concept de privatiser des chambres pour pouvoir déjeuner ou dîner? Quel est le recul que vous avez déjà?
Aujourd'hui, nous avons servi 24 repas dans ce concept.
Et l'idée pourrait être étendue? Oui, vous pouvez continuer à proposer les deux formules, hein, la formule hôtel ou la formule déjeuner ou dîner, ça pourrait perdurer?
Oui, le but est de faire perdurer ce concept et, comme nous le disions, de créer une plateforme pour que tout hôtel-restaurant qui est notre ADN, qui suive notre ADN, soit référencé sur notre site.
Dora, les restaurateurs, vous le disiez tout à l'heure, c'est très compliqué pour eux et d'ailleurs ils réclament un allègement du protocole sanitaire.
Oui, parce que ce protocole, selon eux, il dégrade fortement leur rentabilité. Les indépendants des hôtels, cafés, restaurants représentés par le GNI demandent par exemple l'autorisation de la consommation au comptoir, celle des réceptions aussi, qu'elle puisse avoir lieu. Parce que selon eux, 17% d'entreprises ont abandonné tout espoir de réouverture malgré les aides du secteur. Ils réclament également que sur les 3 mois de fermeture, 1 mois reste à la charge du locataire, 1 mois soit pris en charge par le bailleur et 1 mois par l'État pour pouvoir s'en sortir.
Ouais, c'est ça, ils pourraient peut-être s'en sortir. Dernière question, Mathieu Dédé, quels sont les profils qui sont venus chez vous jusqu'à présent? C'est quoi? Ce sont des couples, des jeunes amoureux? C'est qui? Ou peut-être des déjeuners d'affaires aussi, hein?
surtout une clientèle locale, surtout pour le loisir. Hein. Ce sont des couples qui ont envie de se faire aussi plaisir en sortant du confinement, enfin pouvoir dîner.
De pouvoir sortir un peu de chez eux.
Fêter un événement aussi qu'ils n'ont pas pu fêter.
Hein. Oui, ou des anniversaires, tout voilà. Ça, vous l'avez fait.
Voilà, absolument.
Eh ben merci beaucoup. Ça s'appelle. Vous êtes donc le propriétaire de l'hôtel Jean de Beauce. Merci à vous, Mathieu Dehé. Tout ça, c'est très inspirant, hein, Marie. Il y a les entrepreneurs qui inventent, qui créent, même pendant la crise là. Ces restaurateurs.
On a quand même deux exemples extraordinaires, les serres.
Ouais.
Et puis là, l'hôtel transformé en restaurant. J'imagine qu'il y a plein d'autres solutions.
Eh ben il y en a plein d'autres. Et justement, un restaurateur là qu'on va voir en ligne, qui a décidé de revoir totalement son concept pour survivre. Ça se passe à Juan-les-Pins. Bonjour Ludovic Lequin.
Oui, bonjour.
Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes le gérant du restaurant L'Horizon à Juan-les-Pins. Vous avez modifié votre style de restaurant, votre carte. Vous avez même investi 10 000 euros pendant la crise avec votre épouse. Et pourtant, c'est un restaurant que vous avez depuis 10 ans et vous l'avez fermé hein, au moment du confinement.
Oui, exactement. En fait, le samedi 14 à minuit, quand on a su qu'il fallait fermer le restaurant, donc on a fermé. Franchement, au départ, nous on pensait que ça allait durer peut-être une quinzaine de jours. Hein. Donc on s'est dit, donc on ferme. Quelque part, entre guillemets, vu qu'on prend pas souvent de vacances, pourquoi pas, tiens, ça va nous reposer, on profitera de notre logement, qu'on ne profite jamais puisqu'on travaille comme des fous.
Mmh. Et puis, au fur et à mesure, vous vous êtes dit, on va peut-être un petit peu changer les choses.
Exactement, parce qu'en fait, quand on regardait les informations, on disait, mais attendez, ça va durer. Donc, en fait, le temps passe, et à un moment, on se dit, je pense que là, ça va durer longtemps. Donc, un jour, nous avons décidé de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait?
Et vous, là, vous avez vu une opportunité, vous vous êtes dit, on va changer les choses. On va changer
la carte.
Nous,
on a un métier où forcément toute la famille s'y mêle, puisque quand on avec le travail, forcément nos enfants qui sont autour, tout le monde participe à tout ça.
Réunion
famille, et on dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde est concerné dans la famille, donc tout le monde y met son grain. Donc en fait, on s'est mis autour d'une table et on a dit aujourd'hui, la seule chose que j'ai dit en fait à ma femme et mes enfants, je fais, il faut oublier la restauration telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'on la faisait à l'époque.
Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a?
Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a? Et là, c'est assez compliqué parce qu'en fait, on peut rien faire, on ne peut pas ouvrir, on est confiné.
Mais vous pouviez quand même proposer de la vente à emporter parce que ça c'était possible. Hein.
Voilà, en fait, exactement, ça c'est vrai. Mais nous, en fait, j'ai dit, moi, il est hors de question de faire de la vente à emporter tel qu'il était fait et tel qu'on pouvait la faire. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui ont mis une pancarte. Veuillez commander. Donc avec la carte qu'ils faisaient avant, donc ils mettaient leur numéro de téléphone. Veuillez commander. Et en fait, ils faisaient les plats pour beaucoup le même prix qu'ils faisaient alors sur place. Et moi, je voyais pas l'intérêt de vendre des plats qu'on consomme sur place au même prix à emporter. Et de plus que nous, on était quand même un semi-gastro et vendre du poisson frais et vendre des plats tels qu'on les faisait à l'époque, c'était pas possible de les réchauffer à la maison. Un plat comme on le fait, c'est un plat qui se mange sur place tout de suite, servi et on le mange de suite. Donc en fait,
vous êtes dit on va se transformer en traiteur. Donc vous avez établi de nouvelles formes, de nouveaux menus avec des nouveaux plats, des quiches, des salades, des pizzas, des choses que l'on peut emporter, réchauffer facilement à la maison. Donc vous avez changé d'activité.
Voilà exactement. En fait, on a décidé on va faire service traiteur. Donc ça c'était notre idée finale et on va acheter des vitrines réfrigérées. Et on va changer totalement la carte, puisque la semi-gastro, ça n'ira plus.
Donc, vous avez supprimé un tiers du restaurant, de places assises, des vitrines réfrigérées, et vous avez investi
Voilà, on a investi à peu près 10 000 euros, avec des vitrines réfrigérées, un four à pizza, d'autres frigos. Et en fait, on a habillé tout le restaurant et toutes les vitrines réfrigérées d'une déco assez sympa et de tendance en bois. Et pour faire, parce que des vitrines telles qu'elles sont, c'est vraiment pas beau, quoi. Donc en fait, pour moi, c'est pas possible de mettre des vitrines et casser.
Donc vous avez tout refait, voilà. Vous êtes remis en question, Marie. On le voit, il s'est remis en question, il a investi 10 000 euros alors qu'on est en plein confinement, il faut se remettre dans le contexte. Là aussi, on retrouve l'audace et j'ai envie de dire l'inconscience de l'entrepreneur aussi.
C'est prendre des risques et en même temps, ça montre que ce n'est pas du bricolage et qu'on y croit. Et c'est ça, être entrepreneur aussi, hein, c'est de se dire, allez, je vais dans cette direction, j'y crois et j'y vais à fond. Et c'est vraiment ce que vous avez fait et ça, c'est admirable. Se pose aussi la question de la rentabilité. J'imagine que vous avez calculé ça parce que là, les restaurants ont ouvert, mais avec la distanciation sociale, on ne peut pas remplir complètement les restaurants. Est-ce que du coup, cette formule de traiteur est plus rentable pour vous qu'un restaurant à demi rempli?
Alors en fait, c'est vrai que c'était prendre un risque d'investir, mais moi j'ai toujours appris que de toute façon, pour pouvoir gagner, il faut savoir investir, il faut savoir perdre ou gagner. Donc moi, à ce moment-là, j'ai dit je prends le risque et on verra bien ce qui se passe. Donc c'est vrai que de toute façon, si nous on a ouvert le 15 mai, donc on a fait tous les travaux, on a ouvert le 15 mai, et du 15 mai au 31 mai, franchement, j'étais très surpris. La vente à emporter a super bien fonctionné et on a fait à peu près. Alors forcément, c'est pas les chiffres normaux, mais on a quand même fait à peu près sur la même période du 15 au 31 mai, on a fait environ 50% du chiffre d'affaires de 2019 sur la même période.
Bah donc c'est
et juste
bien,
en
là,
juste
c'est...
en traiteur. Ah oui, c'est vraiment déjà très très bien. Et c'est vrai que ça nous a permis de limiter la casse, hein, ça c'est clair.
Donc finalement, oui, allez-y.
En fait, dans ce concept, ce que je voulais absolument, c'était pas du tout avoir une pancarte avec un numéro de téléphone et commander. Moi, je voulais un contact avec le client. Alors forcément, en respectant les distanciations sociales, mais en étant derrière mes vitrines avec mon masque et les clients avec leur masque. En fait, on respectait largement ce mètre de distance, mais ils pouvaient avoir un visuel sur tout ce qu'on leur proposait, qui n'était plus du tout ce qu'on faisait à l'époque, mais au moins, on propose des quiches, on propose des salades.
Vous êtes adapté, vous avez su innover et pas rester sur ce que vous saviez faire. Vous avez utilisé ce que vous saviez faire pour le transformer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un nouveau restaurant, j'ai envie de dire, avec une salle traiteur, une salle pour assise, pour vos convives. Et ça, c'est vraiment une réussite. Dora, quand il a fallu réinventer la carte des restaurants pour répondre aux règles sanitaires, là aussi, on a vu plein de choses nouvelles. Hein.
Oui, il y a une multitude de solutions pour avoir le menu directement, notamment sur son téléphone, qui du coup, c'est très éco-responsable comme solution, comme l'appli Printo Resto, par exemple, qui grâce à un QR code permet aux clients, vous voyez, c'est les petits carrés là, avec toutes sortes de choses qu'on voit dedans, qui permettent de sélectionner le plat directement sur son téléphone. Dans le même genre, il y a Mia, toujours QR code, présent sur la table. On accède aux photos des plats, leur composition, est-ce qu'il y a des allergènes ou non. On passe sa commande directement en cuisine, on paye aussi, voilà, en CB, en ticket restaurant, enfin. Et il y a Simply Resto, pour en citer un autre, qui propose aux professionnels de traduire même leur menu dématérialisé en 10 langues. Quand les touristes vont revenir, on sera heureux.
Et ben voilà, on les attend, on espère. C'est la fin de ce dossier du jour. Merci à Philippe Raoult, merci à Mathieu Dé, merci à Ludovic Lequien. On voit que tous ces restaurateurs ont inventé des nouvelles choses pour pouvoir garantir la sécurité des clients. Il est 13h52.
Europe 1.
Vous avez une entreprise, vous rencontrez des difficultés, l'équipe de la France Bouge est là avec vous, pour vous, avec CCI France, et c'est le coup de main d'Europe 1. À tout de suite.
C'est la dernière partie de l'émission avec le coup de main de la France Bouge. Si vous avez besoin de ce coup de main, des conseils de notre experte, envoyez-nous un mail e1-lafrancebouge@europe1.fr. Elisabeth.
Et c'est le moment de retrouver Nathalie Carré. Bonjour Nathalie de CCI France.
Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde.
Chaque jour à 13h, la 55, vous épluchez les dossiers, vous donnez des conseils, des directions à prendre. Aujourd'hui, c'est la fondatrice d'Atelier Nouveau. Bonjour Laure Battol.
Bonjour.
Vous existez depuis avril 2019 et vous proposez des ateliers d'éveil et d'expression par l'argile à Montreuil. Vous êtes l'unique personne dans votre atelier, vous n'avez pas de salariés et vous faites travailler les mains dans la terre, aussi bien aux adultes, aux enfants qu'aux bébés. Et je crois que vous avez une question, vous avez besoin d'un coup de main, on vous écoute.
Oui, c'est exactement ça. Merci d'avoir présenté mon activité qui est assez insolite. Et la question que je me posais, comme je suis à la fois sur une activité culturelle et sociale, et que mon activité, comme les restaurateurs dont vous avez parlé avant, a fermé pendant à peu près 3 mois, et que moi aussi je suis limitée avec le nombre de personnes que je peux recevoir, j'ai besoin d'aide financière pour pouvoir relancer mon activité qui est toute jeune. Et du coup, je voulais savoir à quoi je pouvais avoir droit.
Nathalie Carré.
Plusieurs bonnes nouvelles. D'abord, le protocole de sécurité a été allégé hier. La nouvelle version était allégée. Donc, le respect de la distance d'au moins 1 mètre, ça devient la norme. Et donc, la jauge, vous savez, de 4 mètres carrés entre chaque personne ne reste qu'à titre indicatif. Ce n'est plus une obligation. Et si vous ne pouvez pas respecter cette distance, à ce moment-là, le port du masque est obligatoire. Donc, ce qui veut dire que vous allez pouvoir retrouver des groupes de taille normale. Voilà. Et donc, ça déjà, c'est une très bonne nouvelle pour reprendre normalement votre activité. Deuxième bonne nouvelle, donc votre activité est sous, comme on disait hier, le code NAF, donc le code activité enseignement culturel. En ce moment, tout dépend du code NAF. Le Saint Graal, c'est le code NAF.
Et c'est donc, je rappelle, c'est l'activité de l'entreprise. Là, l'activité ça rentre
dans une case. Exactement. Parfait. Et donc, ça rentre dans la case plan tourisme. Donc, ça, voilà. Donc, ce qui veut dire que vous avez le droit au deuxième volet du fonds de solidarité. Donc, si vous avez eu le refus sans condition de refus, du prêt garanti. Donc, c'est 2000 euros par rapport à votre situation. En tant que micro-entrepreneur, vous avez l'exonération des cotisations sociales dues pour votre activité en février et juin. Donc, si vous avez repris un peu d'activité en mai et juin, vous ne payerez pas de cotisations sociales. En revanche, attention, faites vos déclarations de chiffre d'affaires. Même si vous payez pas. Vous pouvez demander une subvention de 50% de vos achats que vous allez réaliser ou que vous avez réalisé pour protéger donc vous et vos clients, pour mettre en place les gestes barrières, etc. Je vous enverrai le détail. Et puis, si votre banque vous refuse un prêt, si vous décidez de demander un prêt, votre banque vous le refuse, vous avez une aide de la région qui s'appelle le Fonds Résilience, qui est une avance remboursable dont vous pourriez bénéficier. Au-delà de ça, vous avez quand même une activité originale. Votre site est très joli, donne vraiment envie.
Oui, c'est vrai.
Il est très très beau. Donc il y a encore beaucoup de personnes qui ont vécu des moments d'angoisse et de détresse. Il y a eu des couples, des familles séparées pendant plus de 2 mois en fonction des activités professionnelles. Peut-être que vous pouvez imaginer une offre un peu déstress post-confinement, reconnexion post-confinement, pour réenclencher, réamorcer en tout cas.
Un atelier déstress, après post-confinement par l'argile, il y a peut-être quelque chose à faire de peut-être plus.
Ouais,
plus
ça fait du bien de malaxer la terre
à l'actualité. Marie-Éloi, je crois qu'elle a aussi quelque chose à vous dire, Laure Battol.
Oui, je confirme ce qu'a dit Nathalie Carré. Effectivement, votre site est vraiment très bien fait. Il est très complet. Alors, j'allais vous conseiller pour cet été de faire des abonnements, de faire des stages d'été, de proposer cela aux enfants, aux bébés. Mais en fait, vous faites déjà tout cela. Donc, bravo à vous. Et surtout, vous faire connaître en local maintenant. Donc, activez la presse locale. N'hésitez pas à aller les voir en leur montrant tout ce que vous faites.
La mairie aussi.
La mairie, mettez des affiches chez les commerçants. Maintenant, c'est vous faire connaître parce que je crois que vous avez fait tout ce qui était possible sur votre site. C'est vraiment très, très bien fait.
C'est la fin de votre émission. Merci, merci Nathalie Carré, en tout cas, d'avoir pu répondre aux questions de Laure Battol. Merci à Laetitia Farine qui m'a aidé à préparer cette émission. Marie-Éloi, on vous retrouve demain, vendredi.
Avec plaisir.
Vous aussi, Dora, on vous retrouve demain. Demain, nous parlerons des cahiers de vacances. Bah oui, parce que les vacances scolaires, c'est déjà vendredi prochain. À demain.
À demain, c'est Elisabeth Assayag. Et dans un instant, on retrouve Christophe Ondelat sur Europe 1. Et merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 14h.